Bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, dans La Lorgnette, nous vous proposons la retransmission d'une conférence de Pierre Haroche sur les enjeux de la défense européenne. Alors que la menace russe et les déclarations contradictoires du président états-unien Donald Trump précipitent les nations européennes dans des projets majeurs de construction d'une Europe de la défense, Pierre Haroche, maître de conférence en relations internationales à l'Université catholique de Lille, analyse la situation et propose des pistes de réflexion. Cette conférence était organisée par l'association Europe Ensemble, que nous remercions. Bonne écoute!
Bien, bonjour à tous et à toutes. Nous sommes très heureux de vous accueillir, Monsieur Pierre Haroche. Merci d'avoir tenu bon et de nous faire effectivement cette conférence que nous attendons avec impatience parce que c'est qu'un sujet vraiment très, très chaud, très actuel. On a beaucoup de questions à se poser autour de ce sont ces enjeux qui sont devenus maintenant presque urgents par rapport à la défense européenne. Ça a longtemps été un sujet qui était mis de côté, il y avait eu des échecs jusqu'à présent, et là, les Européens sont devant, d'une certaine façon, un mur, et il faut sans doute y réagir. Vous allez nous replacer cela sans doute dans son contexte historique et dans les perspectives que les derniers événements ont pu tracer. Voilà, merci. Alors, je précise que vous êtes maintenant maître de conférence à l'Université catholique de Lille, ce qui n'était pas sur le flyer parce que c'était votre ancienne affectation, et qu'on vous voit de temps en temps à la télévision, et donc on est aussi très content que vous ayez trouvé du temps pour nous. Merci.
Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre invitation. Je voudrais vous faire une présentation en trois temps. Commencer, parce que ça a été rappelé, par l'actualité récente, parce que je pense que c'est quand même la principale porte d'entrée pour nous sur les sujets de la sécurité européenne, de la défense européenne, c'est de se demander qu'est-ce qui est en train de se passer. Dans un second temps, je reviendrai un petit peu en arrière pour remettre ça dans une perspective de plus longue durée. Et puis à la fin, je reviendrai sur l'actualité, ou plutôt sur le temps présent, en essayant de vous proposer quelques réflexions pour l'avenir. Voilà. Alors, sur l'actualité récente, je voudrais simplement dire que je pense que ce qui est en train de se passer et ce qui s'est un peu cristallisé ces dernières semaines, en particulier depuis l'arrivée au pouvoir du président Trump, c'est un moment important, je voudrais dire par là, un moment qui affecte des aspects un peu structurels de l'Europe. C'est-à-dire que ça touche des piliers un peu fondamentaux qui sont là depuis longtemps, et si on les modifie, ça peut faire des évolutions qui auront des conséquences pendant longtemps. Voilà ce que je veux dire par là. Alors, il y a une première chose que je pense importante, et puis je vais essayer de suivre peut-être un ordre chronologique pour essayer de vous expliquer ce que j'entends par cette évolution structurelle. Dans mon livre « La Forge du Monde », je parle parfois d'évolution civilisationnelle, mais fondamentalement, ça veut dire la même chose. C'est la notion de civilisation telle qu'employée par l'historien Braudel, c'est un peu les fondamentaux d'un espace tels que peuvent les décrire à peu près toutes les grandes sciences sociales, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a de fondamental et d'assez stable en matière économique, en matière politique, en matière sociale, en matière culturelle, en matière religieuse. Voilà, il y a des fondamentaux qui ne bougent que très lentement, et c'est ça un petit peu la dimension civilisationnelle de l'histoire, disons pour Braudel, par opposition à des sphères qui bougent plus rapidement, plus événementielles ou liées à une période, mais pas forcément à cette dimension du temps long qui est la dimension de la civilisation. Et là, je pense qu'on touche en ce moment à quelque chose qui est de l'ordre de la civilisation. Alors, première chose que je trouve importante, c'est lorsque, en février dernier, le secrétaire à la défense américain est arrivé à Bruxelles et a dit « Eh bien, il y a une nouvelle façon de penser les relations entre les États-Unis et l'Europe qui ne doit plus exactement être comme elle l'était avant. Nous sommes toujours alliés. » Hein, il n'a pas dit « nous quittons l'OTAN » ou « nous ne sommes plus engagés vis-à-vis de l'Europe, nous sommes toujours alliés ». Mais il est clair que la sécurité européenne doit être principalement, essentiellement couverte par les Européens. Et il a même parlé d'une division du travail géographique, en disant, voilà, nous sommes toujours alliés, mais nous, nous avons des priorités, eh bien, évidemment, sur notre pays, en Amérique. Nous avons des priorités de l'autre côté, dans l'autre direction, c'est-à-dire du côté Pacifique, du côté Asie. Et donc, nous, ça, c'est ça qui va nous occuper principalement. Et donc, vous, ce qui concerne la sécurité européenne, au moins à un niveau conventionnel, c'est-à-dire que pour l'instant, on ne parle pas des questions nucléaires, au moins à un niveau conventionnel, c'est surtout les Européens qui doivent s'en occuper. Alors ça, c'est quelque chose qui n'était pas fondamentalement nouveau, qui a été, disons, un peu accéléré, un peu accentué, mais ce n'était pas une idée tout à fait nouvelle qui sortait d'un chapeau en février 2025, cette idée que, pour les Américains, l'Europe devenait une région secondaire, en particulier par rapport au Pacifique, par rapport à l'Asie. Avec une collègue sinologue, j'avais écrit il y a quelques années un petit papier dans la revue Le Grand Continent qui disait 2027, l'année de l'autonomie stratégique. Et pourquoi est-ce qu'on l'avait appelé comme ça ? Parce que 2027, c'est un peu une année symbolique où, sans faire de prédiction, la Chine veut être prête à rentrer en guerre, même si ça ne va pas nécessairement se passer, mais elle veut être prête à cette échéance. Et on se disait, le jour où la Chine pense être prête à entrer en guerre, les États-Unis sont obligés de se focaliser à 100% sur le Pacifique, sur l'Asie, et donc se pose évidemment la question de l'autonomie stratégique qui, en réalité, se pose déjà en 2025, en anticipation en grande partie. On a déjà aussi des documents qui viennent du Pentagone qui poursuivent cette réflexion et qui disent on ne mettra en Europe que ce qui reste. C'est-à-dire ce qui n'est pas absolument indispensable en Asie. Ce qui doit d'ailleurs nous pousser à prolonger le raisonnement en se disant s'il y a une crise, s'il y a une guerre en Asie, il n'y aura peut-être plus rien en Europe. Et ça, c'est une vraie possibilité, en pratique. Il pourra rester des petites choses, mais disons que, en pratique, les États-Unis veulent être en seconde ligne. Et si en plus ils sont occupés ailleurs, alors leur rôle sera pratiquement, possiblement réduit à presque rien. Donc, en tout cas, au niveau conventionnel. Bon. Ça, c'est un premier point, mais je vous dis, ça n'est que l'accélération de quelque chose qui était connu. La deuxième chose qui n'était pas exactement une accélération de quelque chose de connu, c'est ce qu'on a appelé de plus en plus le rapprochement avec la Russie. Alors là, c'est quelque chose de plus inattendu, parce que beaucoup de gens se disaient « les États-Unis sont moins disponibles », mais ils ne se disaient pas forcément « les États-Unis vont vouloir... être amis avec ceux qui menacent l'Europe ». Mais bon, même si c'est assez difficile de lire exactement ce qui est en train de se passer, bon, peut-être que les choses ne sont pas forcément tout à fait claires encore aujourd'hui. Il y a des gens qui tablent sur le fait qu'il y a vraiment un rapprochement et que, d'une certaine manière, on est parti sur une autoroute entre la Russie et les États-Unis. D'autres qui disent peut-être qu'il y aura des chaos, peut-être qu'il y aura des complexités. On ne sait pas, en tout cas moi je ne sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des justifications à ce rapprochement qui sont mises en avant par les uns et les autres dans l'entourage du président Trump, qui sont très cohérentes avec le premier point, c'est-à-dire le pivot vers l'Asie. Et nous avons entendu en particulier le secrétaire d'État, le ministre des Affaires étrangères, Rubio, dire quelque chose qui nous occupe dans cette affaire, c'est de nous dire eh bien, on ne veut pas que la Russie soit trop dépendante de la Chine. Nous avons vu à l'occasion des sanctions, de l'isolement diplomatique de la Russie dans le monde occidental, une Russie se tourner vers la Chine comme alternative pour trouver des soutiens économiques, pour trouver des débouchés pour ses ressources énergétiques, pour trouver des technologies dont elle a besoin pour son industrie de l'armement. Et nous ne voulons pas que la Russie soit vassale de la Chine. Donc avoir ce dialogue avec eux, c'est intéressant. Et de fait, ce qui est quand même fascinant, c'est que on s'est mis, entre Américains et Russes, à parler de la coopération avant même de résoudre quoi que ce soit sur la question ukrainienne. Ce qui a surpris certains commentateurs qui se sont dit « Pourquoi est-ce qu'on parle de lever les sanctions alors que rien n'a été réglé ? Pourquoi est-ce qu'on parle de coopérer alors que la guerre n'est pas terminée ?» Mon hypothèse, c'est qu'en fait, c'est pas tellement le règlement de l'affaire ukrainienne qui intéresse les Américains, en tout cas l'administration Trump, et les négociations avec la Russie ne seraient que l'instrument pour arriver à un règlement de l'affaire ukrainienne, c'est l'inverse. C'est-à-dire, l'enjeu principal, c'est de se rapprocher des Russes, et l'élimination de la question ukrainienne qui complique ce rapprochement, c'est ça l'instrument. Ce n'est pas ça l'objectif, c'est ça l'instrument. Alors, ça, ce qui est intéressant, comme je vous ai dit, c'est que ça nous ramène à cette histoire. L'Europe n'est pas notre priorité, c'est l'Asie. Élément intéressant, on sait que Donald Trump s'est mis à faire des revendications sur le Groenland, alors ça aussi, évidemment, il en avait parlé pendant son premier mandat, mais ce côté très, très insistant a poussé beaucoup de gens qui se disaient « oui, c'est une technique de négociation, on demande beaucoup pour obtenir moins », à se dire bah, « on lui a tellement proposé en échange que s'il continue à insister, c'est qu'en fait, il ne veut pas moins, il veut beaucoup ». Il veut beaucoup. Et là encore, ce que je trouve particulièrement inquiétant, ce n'est pas simplement que Donald Trump dise ça, c'est qu'il y a des jeux de réponse entre les Américains et les Russes qui parlent de l'Arctique. Et les Américains disent on pourrait coopérer avec les Russes dans l'Arctique. Les Russes disent oui, on pourra se poser la question. Les Américains semblent sérieux dans leur volonté d'annexer le Groenland. C'est-à-dire qu'il semble se dessiner, en plus de la question ukrainienne, cette espèce de dialogue un peu par-dessus la tête des Européens sur la question de savoir tu veux ceci, tu veux cela, une espèce de marchandage qui, évidemment, se fait au détriment de la sécurité européenne. Alors ça, c'est quelque chose qui était beaucoup moins attendu et qui, à mon avis, a des effets sur la sécurité européenne qui vont dans le même sens, mais approfondissent le premier point, c'est-à-dire le côté plus limité des ressources américaines. Pourquoi ? Parce que ça veut dire que même si les Américains restent dans une certaine mesure présents en Europe, même si les Américains ne dénoncent pas complètement, formellement, leur rôle dans l'OTAN, leur engagement à soutenir la sécurité européenne, eh bien, on peut se retrouver, non pas pour des raisons de ressources, mais pour des raisons politiques, dans une situation très difficile. Je voudrais juste vous présenter un petit scénario auquel j'essaye de réfléchir. Imaginons, les Russes disent que les minorités russophones dans certains pays européens, par exemple en Estonie, ne sont pas respectées. Peut-être essayent de diffuser l'idée qu'un génocide est en cours, même si c'est imaginaire, mais c'est ce qu'ils faisaient déjà en Ukraine. Un génocide est en cours. Ils adressent un ultimatum à l'Estonie en disant « Écoutez, autorisez-nous à envoyer des policiers russes sur votre territoire pour protéger les russophones, et puis si vous n'acceptez pas, on devra prendre des décisions nous-mêmes. » Les Estoniens vont à Washington en disant bah, « Regardez, là, il y a un ultimatum, une menace, une agression, aidez-nous. » Les Américains pourraient dire « Écoutez, oui, on est dans l'OTAN, oui, il y a l'article 5, oui, il y a une solidarité, mais là, on aimerait que vous trouviez une solution à l'amiable avec les Russes. » Parce que ça ne nous intéresse pas de rentrer dans une confrontation avec eux. Et que d'une certaine manière, ils leur disent, comme ils ont dit à Zelensky dans la fameuse dispute du bureau ovale, vous n'avez pas les cartes, ce n'est pas vous qui allez nous entraîner dans la Troisième Guerre mondiale. Donc maintenant, vous acceptez et vous arrêtez de rouspéter en prenant des airs parce que, en fait, c'est les Américains qui vous donnent des cartes. Donc si vous essayez d'en profiter, eh ben, on va vous les retirer. Voilà. Ça, c'est le risque. Et pourquoi c'est un risque qui va plus loin ? Parce que, d'une certaine manière, non seulement on n'a pas besoin que les Américains quittent l'Europe pour se retrouver dans une situation d'abandon, mais c'est même peut-être pire. C'est-à-dire que le fait que les Américains soient au cœur du dispositif de sécurité européenne pourrait, et ça c'est un renversement complet par rapport au raisonnement passé, devenir une faiblesse au lieu d'être une force. C'est-à-dire qu'on se dit on doit compter sur des gens qui sont les premiers à nous dire « signer la capitulation ». Alors ça va plus loin, ça c'est clair. Ça pose de façon encore plus dramatique la question de l'évolution de la politique américaine. Maintenant, rapidement, je voudrais parler de ce que ça implique pour la Russie. La Russie, qui est un pays qui considère que, grosso modo, sa place de grande puissance tient à sa capacité à satelliser des voisins. La Russie n'est pas une grande puissance industrielle. La Russie n'est même plus vraiment une puissance démographique. Elle est en déclin. Mais elle veut rester dans ce club avec les États-Unis et la Chine. Qu'est-ce qui peut la faire rester dans ce club ? C'est le fait de se dire, à côté de moi, il y a des petits pays riches, mais faibles, je vais les satelliser, et c'est ça. C'est ça ma place dans le monde. Et c'est quelque chose d'assez constant. Il y a des documents fascinants qui ont été déclassifiés par la CIA il y a quelques mois. Des documents qui datent de la fin des années 90, c'est-à-dire typiquement l'époque où on s'imaginait que tout était apaisé entre Européens, Américains et Russes. On parlait de coopération même entre la Russie et l'OTAN. Et il y a ce document fascinant où, devant le président américain Clinton, le président Yeltsin, donc ce n'était même pas Poutine, dit « Laisse-moi l'Europe ». laisse-moi l'Europe parce que c'est normal. Nous, on est le grand pays de l'Europe. Il faudrait que les États-Unis nous laissent l'Europe. Qu'on soit les hégémons, ça ne veut pas dire les conquérir militairement, mais qu'on soit les arbitres de ce qui se passe en politique européenne, c'est à nous de gérer l'Europe. Et voilà, c'est un peu leur vision de comment pousser la puissance russe. Et ces Russes-là se trouvent possiblement dans quelque chose qu'ils auraient intérêt à voir comme une sorte d'ouverture historique, c'est-à-dire ce qui était le principal obstacle à la réalisation de cet objectif, c'était le fait qu'il y avait quand même la première puissance militaire mondiale en Europe. Et là, si on leur dit que la première puissance militaire mondiale, eh bien, non seulement elle est sur le départ, mais que même elle a, dans une certaine mesure, envie de trouver des arrangements et des terrains de conciliation avec eux, alors ils doivent se dire, c'est le moment ou jamais. Et c'est ça qui est très inquiétant. C'est-à-dire, ce n'est pas que leur agressivité pour des raisons endogènes augmenterait, mais c'est que leur vision du monde, plus cette espèce d'occasion, d'ouverture, de vulnérabilité soudaine de l'Europe, eh bien, ça doit les inciter à se dire c'est maintenant ou jamais de prendre notre chance. Alors, je voudrais aussi répondre à une question qui se pose beaucoup dans la société française et qui a été beaucoup débattue à la suite, en particulier, de l'adresse aux Français du président Macron, où des gens se sont demandé, et je ne veux pas rentrer dans des polémiques, mais souvent, je pense aussi de bonne foi, en se disant, est-ce que la menace russe, elle est si importante qu'on le dit parfois? Est-ce qu'on n'exagère pas? Ces Russes qui ont l'air d'être enlisés dans le Donbass, est-ce que vraiment on peut considérer que c'est vraiment une menace pour nous qui sommes assez loin? Je pense que la bonne façon de penser ce problème, c'est de considérer que la menace, ça n'est pas quelque chose qui est figé à un temps T. C'est quelque chose qui peut suivre une logique d'engrenage. Évidemment, si on maintenait le système tel qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire une Ukraine qui fixe les Russes et qui a les moyens de continuer à les fixer. Alors oui, ça, je suis d'accord, la Russie serait une menace pour l'Ukraine, et il faudrait continuer à défendre l'Ukraine, mais elle ne deviendrait pas une menace qui s'étendrait, parce que tant que la Russie est fixée et quasiment à 100% de ses capacités offensives en Ukraine, c'est sûr que le reste de l'Europe est protégé. Ce qui est d'ailleurs quelque chose, une idée que je reprendrai à la fin, parce que je pense qu'il faut être conscient de ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y en a qui nous défendent, qui nous protègent, qui nous donnent des garanties de sécurité, en réalité, ce sont les Ukrainiens, plus que les Américains. Alors, donc, ça, c'est vrai si on se maintient. Mais si on rentre dans une option où, par complaisance ou en se reposant sur cette idée soi-disant rassurante que pour l'instant, il n'y a pas de menace immédiate pour l'Europe de l'Ouest en tout cas, alors il faudrait peut-être laisser du lest ou ce n'est pas la peine de faire un réarmement trop massif. Mais le problème, c'est ce que peut produire cette dynamique. Parce que si on commence à dire on va reculer, on va être moins exigeant sur la liberté de l'Ukraine, moins se réarmer, ça aura une conséquence non seulement sur les Russes, mais sur les cibles et les victimes potentielles des Russes. Et ça, je pense que c'est important à se dire, parce que parfois, on a l'impression aussi que la menace ou l'agressivité, c'est quelque chose d'inné. On est soit Hitler, soit un gentil. Non, on apprend aussi. Et on répond aux occasions qui s'ouvrent à soi, on répond aux incitations qui se présentent ou, au contraire, aux barrières solides qu'on rencontre et qui nous incitent à la prudence. Et je pense que si on allait dans une direction de recul, de renoncement, eh bien, ça inciterait premièrement la Russie à se dire « Effectivement, c'est le moment d'avancer. Les Américains s'en vont, les Européens sont lâches, notre occasion historique, c'est de refaire une sorte d'hégémonie en Europe ou au moins en Europe centrale. » Deuxièmement, ça veut dire que tout un tas de pays, à commencer par l'Ukraine, vont se dire « Il n'y a rien à espérer de l'Europe, comme il y a encore moins à espérer des États-Unis. » Bien finalement, il faut soit être neutre, soit soumis. Et ça, c'est un raisonnement qui peut faire tache d'huile. C'est déjà ce qu'on appelle aujourd'hui le scénario géorgien, c'est-à-dire un pays qui a voulu se défendre contre la Russie et qui, même si la population croit encore à la direction européenne, eh bien, de fait, le gouvernement, lui, a choisi la collaboration, pour le dire. Eh bien, ça peut se passer aussi en Ukraine, sans le dire vraiment. Mais il y a déjà même des politiciens ukrainiens qui attaquent Zelensky en disant que, oui, fondamentalement, tout ça a été très mal géré, peut-être qu'une autre stratégie. Et de proche en proche, on peut très bien, si l'Ukraine est désespérée et ne voit plus aucune solution pour maintenir sa souveraineté avec le soutien des Européens, eh bien, on peut arriver à un scénario à la géorgienne. Les Ukrainiens diront jamais on est pro-russe, mais de fait, ils auraient des élites qui obéirait à Moscou. Et puis, ça ferait tache d'huile aussi, comme ça a déjà commencé à le faire, au sein de l'Union européenne, la Hongrie, la Slovaquie, peut-être la Roumanie. Et on peut se retrouver avec une sorte de petit empire informel de pays satellisés par Moscou, dont certains seraient au cœur de l'Union européenne et de l'OTAN, et d'ailleurs contribueraient encore plus à paralyser ces organisations qui sont importantes pour notre sécurité et de façon générale pour la défense de nos intérêts dans le monde. Et les autres voisins, ceux qui ne sont pas forcément, qui ne suivraient pas forcément cette pente, en tout cas, ils pourraient se dire bah, est-ce que ça a encore un sens de croire à la solidarité européenne ? Non, probablement pas. Alors il faut se calfeutrer dans ses frontières, ne pas faire confiance à ses voisins. Et autant je pense que si un jour la Russie déclare la guerre à l'Europe, elle n'y arrivera pas. Si la Russie déclare la guerre à un petit pays, le soumet, un petit pays le neutralise, un petit pays obtient sa collaboration, un petit pays le soumet, de proche en proche, oui, elle peut devenir le nouvel empire de l'Europe. Certains seront conquis militairement, d'autres, on n'aura même pas besoin de le faire. D'autres seront tellement effrayés qu'ils essaieront de demander à Moscou son avis avant de prendre une décision importante. D'autres, ce sera les élections qui joueront. La population a décidé d'élire un président, un parti pro-russe, parce que bon, bah, il vaut mieux être bien avec la grande puissance d'à côté. Et de fait, on aura un empire russe en Europe. Ça ne veut pas dire que les chars russes arrivent jusqu'à Blois, mais ça veut dire que de proche en proche, on peut avoir ce type de menace si on ne comprend pas assez tôt ce que ça signifie d'envoyer des signaux de fermeté à un adversaire. Je pense qu'il y a, sans vouloir rentrer dans les comparaisons grandiloquentes qui sont parfois faites les années 30, machin. Bon, moi, je vous ai dit, l'enjeu, ce n'est pas tellement de comparer terme à terme la personnalité de Poutine ou de Hitler, c'est simplement le mécanisme. Eh bien, le mécanisme que je trouve fascinant, c'est que Hitler lui-même, en 1939, quand il attaque la Pologne, il est convaincu qu'il ne démarre pas une guerre mondiale. Il est convaincu qu'il démarre une guerre limitée pour conquérir la Pologne et que la France et le Royaume-Uni ne feront rien. Et parce qu'ils n'ont jamais rien fait, ils ont toujours dit « nous ferons sans faire ensuite », pourquoi est-ce que ça changerait ? Et ça m'amène à un dernier point qui est une menace importante, c'est que si on n'est pas à la hauteur tout de suite, le risque, c'est que les Russes nous sous-estiment en réalité, sous-estiment notre résolution. Et que le jour où on sera prêt à être ferme, que le jour où on dira « bon, ça suffit, maintenant, vous n'avancez plus, sinon c'est la guerre », mais ils risquent de ne pas nous croire. Et ça veut dire qu'à ce moment-là, au lieu de dissuader, on aura la guerre, ce qui n'est pas souhaitable. Donc pour être crédible dans la dissuasion, il faut commencer tôt et il faut être cohérent. Donc ça, c'est la situation dans laquelle on est. C'est-à-dire, je pense qu'effectivement, on a un moment où il faut à la fois se renforcer, mais aussi être assez clair dans les messages qu'on envoie à ceux qui sont de notre côté et à ceux qui ne sont pas de notre côté. Voilà. Maintenant, je voudrais passer à mon deuxième temps, revenir un petit peu en arrière. Parce que fondamentalement, la racine de cette situation qui fait qu'on est obligé de se poser des questions qu'on ne se posait pas avant, c'est ce que j'ai dit au départ, c'est-à-dire l'Europe n'est pas une région prioritaire pour le monde et en particulier dans le monde pour la première puissance mondiale, la première puissance militaire que sont les États-Unis. Et ça, c'est le point fondamental. Et c'est pour ça que, dans mon petit livre, donc dans La Forge du Monde, qui essaye de raconter comment l'Europe, d'une certaine manière, est façonnée par le contact avec les grandes puissances, et là, d'une certaine manière, même si ce que je vous ai raconté n'est pas dans mon livre, puisque mon livre a été publié avant l'arrivée au pouvoir de Donald Trump, même si on pouvait l'anticiper un petit peu, c'est ça aussi La Forge du Monde, c'est-à-dire comment Trump et Poutine déterminent la situation dans laquelle on est, est-ce que la façon dont on doit anticiper ce qu'on doit faire ou ce qu'on peut faire. C'est pour ça, d'une certaine manière, que ce livre s'appelle « Dans la forge du monde ». Mais la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas remonter en arrière cette relation entre l'Europe et le monde ? Parce que cette étape où l'Europe devient une région secondaire et devenant une région secondaire, elle tombe dans une situation structurellement de plus grande insécurité et il y a un besoin de plus grande autonomie, ça n'est que le dernier acte d'une relation qui est plus ancienne. Et ce qui m'a même intéressé, c'est de remonter suffisamment tôt pour arriver à un moment où peut-être la relation était inverse. C'est-à-dire que ça n'était pas le monde qui forgeait l'Europe, c'était l'Europe qui forgeait le monde. Alors j'ai essayé de présenter mon livre comme ça, comme une espèce de relation à deux. l'Europe et le monde sont en fait deux entités qui sont nées en se rencontrant. J'ai essayé de trouver quelle est l'origine de l'Europe et du monde et de leur rencontre. J'ai pris un moment qui me semble un moment un petit peu objectif et assez révélateur, c'est-à-dire le premier voyage autour du monde qui a été fait par une expédition, l'expédition de Magellan en 1521-22. Magellan est mort au milieu, mais ça reste son expédition. C'est la première fois qu'on fait le tour du monde. On est parti de Séville, on revient de Séville. Donc, d'une certaine manière, d'un point de vue matériel, il y a quelque chose. Parce que quand on dit « Ah, la découverte des Amériques », on peut dire, et je pense que c'est tout à fait vrai, oui, mais enfin, c'est une découverte pour les Européens. Pour les Américains, ils n'ont pas attendu 1492. Donc, il y a toujours une question de subjectivité du point de vue. En revanche, faire le tour du monde, ça, jusqu'à preuve du contraire, personne ne l'avait fait avant. Et c'est les Européens qui l'ont fait. Et c'est les Européens qui l'ont fait d'abord par un simple voyage, mais ensuite par le commerce. C'est les Européens qui ont été les premiers à faire un commerce qui faisait aussi le tour du monde. Et aussi, d'un point de vue politico-militaire, c'est les Européens qui, d'une certaine manière, ont fait du monde aussi un champ de bataille et une arène de compétition politique par la colonisation. Ce qui est quelque chose qui reste très ancré dans la mémoire du monde et le passif que les Européens ont dans la mémoire du monde. Mais, d'une certaine manière, ce sont les Européens qui ont inventé la mondialisation au sens du voyage, du commerce et de la guerre et de la domination politique. Et ce que je trouve intéressant, c'est que lorsque je me suis demandé, d'accord, mais alors pourquoi est-ce que ce sont les Européens qui ont eu ce rôle de faiseurs du monde ? Le fait que l'Europe, à ce moment-là, ait émergé comme notion en contact avec le monde, c'est quelque chose qu'on comprend assez aisément, c'est-à-dire quand vous vous ouvrez vers d'autres régions, ben vous commencez à objectiver là d'où vous êtes. Au Moyen-Âge, les Européens ne disent pas qu'ils sont des Européens. C'est-à-dire que cette notion, elle existe au sens géographique, il y a des grands continents, mais elle n'existe pas au sens d'une communauté. On parlait de chrétienté, mais qui n'était pas forcément sur les mêmes frontières que l'Europe. On parlait d'autres choses, mais pas d'Europe. Le mot « Europe » commence à être utilisé, en fait, au sens des Européens et au sens d'une communauté politique qui a une certaine cohérence. À la suite d'un événement assez intéressant, mais bon, je n'aurai pas le temps de le commenter là, c'est la prise de Constantinople par les Turcs en 1453. Et puis, ensuite, il se diffuse vraiment et devient vraiment courant avec ce qu'on appelle, du point de vue européen, les grandes découvertes, qui ne sont pas forcément des grandes découvertes pour tout le monde, mais c'est la confrontation entre l'Europe et toutes les grandes régions du monde. Voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à définir ce que ça signifie d'être européen, en quoi être européen, c'est être différent d'un Américain, d'un Africain, d'un Asiatique. Ça, voilà, je disais, c'est assez facile de le comprendre. Pourquoi est-ce que c'est la rencontre avec le monde qui a fait prendre conscience aux Européens que ça voulait dire quelque chose d'être européen. Mais pourquoi est-ce que ce sont les Européens qui ont joué ce rôle ? Et je me suis rendu compte, finalement, il y a énormément d'historiens qui se sont posés cette question parce que c'est une vraie question. L'Europe était ni la région la plus riche, ni la plus avancée technologiquement, ni la plus puissante militairement. Ce n'était pas non plus les États les plus puissants. Ce n'était pas non plus la région la plus peuplée. Pourquoi ? S'il y avait un État dont on aurait pu penser que, ou une région dont on aurait pu penser qu'elle avait les moyens de conquérir le monde à partir du XVIe siècle, c'était plutôt la Chine, plus avancée de tous ces points de vue-là. Bon. Il y a eu quelque chose en Europe qui était assez fondamental dans ce qu'on pouvait appeler la civilisation de l'Europe à l'époque, c'est-à-dire la façon dont elle était structurée sur le long terme, c'était le fait qu'elle était à la fois très fragmentée et qu'il y avait une intense et perpétuelle compétition militaire entre ces États. Et je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un lien direct entre cette structuration interne et l'expansionnisme mondial. D'une part, parce que c'est comme ça que les Européens, alors qu'ils étaient ni les plus riches, ni les plus avancés, etc., en sont venus à avoir les technologies militaires, au bout d'un moment, qui étaient mises à jour le plus rapidement. Les Chinois, là encore, ont été les premiers à utiliser des armes à feu, à sophistiquer des armes à feu. Mais les guerres, au bout d'un moment, étaient beaucoup moins fréquentes en Chine qu'en Europe. Et c'est ça qui a fait que, quand les Européens arrivaient 10 ans après, ils voyaient des Chinois qui avaient toujours les mêmes armes, et eux, il y avait déjà eu 3 générations. Donc ça, c'est une première chose. C'est ce qui leur a permis matériellement de conquérir, de commencer la colonisation. Et puis, l'envie de conquérir le monde, eh bien là aussi, ce n'est pas quelque chose d'évident. La plupart des peuples sont contents de rester là où ils sont. Mais là encore, c'est très lié à la concurrence entre États européens. Le premier moteur de la colonisation, et ça peut paraître un peu un paradoxe, ce n'est pas un intérêt pour le reste du monde. c'est de vouloir dominer le voisin d'à côté en Europe, ou en tout cas de vouloir éviter que ce voisin vous domine. Et à chaque fois, à chaque grande étape de la colonisation, il y a ce type de concurrence entre les Espagnols et les Portugais, entre les Français et les Anglais, entre les Allemands et les Anglais. Donc en fait, ça a été ça aussi. Donc d'une certaine manière, il y a ce côté un peu paradoxal que c'est la division de l'Europe qui unifie le monde. Et ça nous amène au XXe siècle où cette relation s'inverse. Alors, elle s'inverse par des biais qui, en fait, sont dans une certaine mesure dans la continuité de la première époque. Donc, j'appelle la première époque l'Europe impériale, c'est-à-dire l'Europe qui se projette dans le reste du monde et où c'est sa division qui fait l'unité du monde. La deuxième époque, je l'appelle l'Europe subordonnée et c'est grosso modo exactement l'inverse. C'est-à-dire que la compétition militaire entre Européens a poussé aux guerres mondiales, qui d'ailleurs sont exactement l'aboutissement de la logique de l'Europe impériale, c'est-à-dire c'est l'intense compétition militaire entre Européens qui, comme les Européens dominent le monde, devient une guerre mondiale. On mobilise ses colonies, on mobilise ses alliés. La compétition militaire entre Européens, finalement, en s'emballant, abaisse matériellement, démographiquement, humainement, l'Europe par rapport à d'autres puissances montantes qui sont au moins en partie extra-européennes. Les États-Unis et l'Union soviétique d'abord. Et puis la décolonisation. La décolonisation qui est aussi d'une certaine manière héritière de la colonisation parce que c'est en mobilisant les colonies aussi pour des raisons militaires qu'on a commencé à, d'une certaine manière, mobiliser, pas simplement pour la guerre, mais aussi contre l'Europe, les populations, que d'ailleurs les grandes puissances, États-Unis, Union soviétique, ont été aussi intéressées à soutenir ce moment de décolonisation. J'essaye un peu d'ailleurs de reconceptualiser ça dans une perspective européenne en disant fondamentalement la colonisation, c'était un empire européen sur le monde qui était vu comme tel, comme cohérent, qui n'était pas simplement une addition d'empires distincts. C'était vraiment un empire européen sur le monde. Et la décolonisation, ça a été une sorte de révolte mondiale contre l'Europe. Ça a été une sorte de révolution mondiale contre l'Europe. Et ça place l'Europe dans une position rabaissée, en tout cas dans un premier temps. Et le paradoxe, c'est que c'est ce rabaissement, l'Europe remise à sa place, d'une certaine manière, qui rend possible le renversement de la civilisation européenne telle qu'on l'avait décrit au départ, une civilisation dont la caractéristique principale, c'est la compétition militaire intense entre ses États, entre ses membres, mais qui rend possible le début de la construction européenne. Pourquoi ? Parce qu'en fait, les premiers pas de la construction européenne, c'est une conséquence directe de la guerre froide et de la subordination par rapport aux super grands. Vous êtes tous des alliés des Américains, en particulier c'était la situation dans laquelle se trouvaient les Français et les Allemands, donc vous ne pouvez plus penser vos rivalités de la même façon que si vous étiez encore, vous, des grandes puissances autonomes sur la scène mondiale. Et vos tensions internes, il faut les régler d'une autre façon. Il y a aussi un épisode que j'ai beaucoup étudié et que je trouve fascinant, c'est la querelle de la communauté européenne de défense des années 50. Donc on a proposé en particulier pour intégrer l'Allemagne une armée européenne. Et à ce moment-là, vous voyez vraiment la lutte idéologique entre deux visions de la place de la France dans le monde. Ceux qui sont attachés à l'idée de l'Europe impériale et de la France impériale, qui disent l'avenir de la France, c'est ce qu'on appelait à l'époque l'Union française, c'est le monde, c'est les colonies, c'est l'Afrique, c'est l'Asie. Et donc, il ne faut pas s'enfermer dans une petite Europe qui est trop petite pour nous. Et puis, ceux qui disaient, l'avenir de la France, c'est l'intégration européenne. Et d'une certaine manière, c'était un peu anachronique, peut-être, parce que la colonisation était enfin en train de se finir. Mais ce n'était pas clair pour les contemporains qui pensaient que ça était le début d'une grande et belle fédération mondiale des peuples francophones et de l'Union française. Ça a été arbitré en disant, on préfère garder notre possibilité de rester une puissance mondiale plutôt que de s'enfermer dans l'intégration européenne. Et la solution qui a été trouvée pour intégrer les forces allemandes, puisqu'on ne l'a pas fait dans une armée européenne, ça a été de dire il faut l'intégrer dans l'OTAN et donner beaucoup de pouvoir au système intégré de l'OTAN. Je le souligne parce que souvent, les Français aiment bien se dire qu'ils ont toujours été un petit peu sceptiques sur la dépendance à l'égard des États-Unis. Mais la réalité, c'est que même des gens qui se présentaient comme nationalistes ou les gaullistes étaient les premiers à dire la solution, c'est l'OTAN. C'est d'être comme pendant la Seconde Guerre mondiale, avec les Britanniques, les Américains, l'OTAN, et c'est ça la solution pour intégrer les troupes allemandes. C'est pas une armée européenne qui ne sert à rien et qui nous empêche d'avoir notre rôle mondial. Donc, d'une certaine manière, on délègue l'Europe aux Américains pour pouvoir s'occuper de l'Afrique et de l'Asie. Et ça, c'est ce que j'appelle l'Europe subordonnée. Alors, pas dans le cas de la défense, mais le fait que l'Europe puisse commencer à s'intégrer parce qu'elle est rabaissée. Alors vous allez me dire pourquoi ça ne marche pas dans le cas de la défense. Justement parce que l'Europe est rabaissée, mais pas complètement. Elle est rabaissée en tant qu'acteur, ou les États européens sont rabaissés en tant qu'acteurs. Ils ne sont pas puissants. Mais en tant qu'arène, en tant qu'espace, en tant que théâtre, ça reste un espace important, l'Europe, et ça reste probablement, en tout cas pendant toute la guerre froide, la région la plus importante, la région un peu faiseuse de roi. Si vous contrôlez l'Europe, vous contrôlez le monde. L'épicentre de la guerre froide, là où la compétition est la plus forte entre soviétiques et américains, c'est l'Europe, c'est l'Allemagne, c'est Berlin. C'est ça qu'il faut tenir pour gagner la compétition. Et d'une certaine manière, ce que je raconte, c'est que ça crée comme une sorte de rente de situation. Comme on est très important aux yeux du reste du monde, alors on peut se permettre le luxe de considérer que c'est au reste du monde de s'occuper de nos enjeux de sécurité. Puisque de toute façon, notre sécurité est leur puissance. Et ça fait une seule et même chose. Et c'est à ce moment-là que des Américains commencent à donner un vrai sens politique à une autre notion, je vous ai parlé de la notion d'Europe tout à l'heure, la notion de civilisation occidentale, qui n'était pas du tout une évidence pour des Américains en 1950, parce que pendant très longtemps, la référence des Américains, c'était de parler d'hémisphère occidental. C'est-à-dire on a une civilisation des Amériques par opposition au vieux monde, et qui n'inclut pas le vieux monde, qui au contraire le met à distance, parce que ça c'est le monde ancien, nous on est le monde nouveau. Dans les années 50, c'est là que commence à s'investir d'une signification politique, l'idée qu'il y a une civilisation occidentale qui lie dans une même communauté de destin l'Amérique, les États-Unis en particulier, et l'Europe occidentale, et qu'ils ont les mêmes valeurs, la même vision du monde, les mêmes intérêts, les mêmes objectifs. Voilà. Et tout ça repose sur le fait que l'Europe est la région principale. Et là, vous me voyez arriver à la dernière étape, c'est-à-dire celle dont je parlais au tout début, c'est-à-dire le moment où ce deuxième décentrement, le premier décentrement, c'est on n'est plus les plus puissants, et le deuxième décentrement, c'est non seulement on n'est plus les plus puissants, mais on n'est même pas la reine, on n'est même pas la proie la plus importante. Parce que dans une compétition bipolaire entre les États-Unis et la Chine, la reine la plus importante, eh bien, c'est l'Asie de l'Est. C'est là où se concentre le potentiel économique, militaire, c'est là où se rencontrent le plus directement les rivalités, les ambitions chinoises et américaines. Et l'épicentre, ce n'est plus Berlin, c'est Taïwan. Et c'est exactement ce que disent les nouveaux documents qu'est en train de préparer le Pentagone. C'est-à-dire, notre priorité absolue, c'est Taïwan, c'est l'Asie. Et l'Europe, nous considérons qu'il vaut mieux prendre le risque. Il vaut mieux prendre le risque parce que ça n'est pas prioritaire. Voilà. Et ça, ça veut dire que ce dernier domaine qui ne pouvait pas être concerné par une idée ou une perspective d'union européenne parce qu'il était délégué aux États-Unis, et ça a été l'échec de la CED, eh bien là, dans cette nouvelle ère, peut-être dans cette nouvelle civilisation européenne qui est dessinée, en tout cas au départ, pas par nous, mais par le reste du monde, eh bien là, la question se pose. Parce qu'on ne peut plus déléguer. Quand le reste du monde dit ce qui se passe en Europe, ça ne nous intéresse pas tant que ça, on ne peut pas le déléguer. On est obligé de se poser la question de qu'est-ce qu'on fait, nous, pour aussi régler nos problèmes. Et ça oblige d'ailleurs aussi à une forme de recentrement sur soi-même. Parce que, comme je vous disais tout à l'heure, alors dans une perspective coloniale, mais ça pouvait être dans une autre perspective aussi, c'était d'autant plus facile de s'occuper de la sécurité ou de la stabilité ou des intérêts du monde entier pour les Européens que la sécurité était assurée chez eux. Mais lorsque la sécurité n'est pas du tout assurée chez vous, que vous n'êtes même pas sûr d'avoir suffisamment de ressources, d'énergie, d'argent pour assurer la base chez vous, c'est plus compliqué d'aller parcourir le monde en expliquant et a fortiori à donner des leçons au reste du monde sur comment est-ce qu'on assure la sécurité, la stabilité dans les autres régions. Non seulement vous n'avez peut-être pas assez de ressources pour le faire, mais en plus votre crédibilité n'est pas très forte parce qu'on vous dit si vous êtes faible chez vous, et d'ailleurs c'est typiquement ce qui s'est passé en Afrique, il y a eu un effet de prestige relatif. Si vous êtes soumis à Poutine en Europe, pourquoi est-ce qu'on écouterait, nous on a envie d'être allié avec l'homme fort. Donc c'est comme ça que l'Afrique s'est retournée et s'est livrée à Poutine en se disant il est plus crédible que les Européens qui ont l'air plutôt apeurés par lui. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'appelle l'Europe provinciale. C'est-à-dire une Europe qui devient une région parmi d'autres, mais étant une région parmi d'autres, elle doit aussi se poser des questions qu'elle ne se posait pas quand elle avait le luxe d'être la région centrale, c'est-à-dire de son autonomie et de sa défense. Et ça fait le lien avec ce que je disais tout à l'heure. Je voudrais juste vous donner deux perspectives de, d'avenir ou de sujets qui me semblent au centre du débat pour la défense de l'Europe. Il y a un premier sujet qui est celui du financement de la défense, qui est un sujet compliqué parce qu'aujourd'hui, on essaye d'acheter des armes, on essaye de le faire avec parfois des logiques européennes, mais je pense qu'on est encore dans un système qui est bancal. Il y a des catégories d'armement qui sont très standards, qui sont très communes à tous, et que finalement on a besoin en grande quantité pour tout le monde sur le long terme, des munitions, des obus, des drones, des missiles. Ça n'a aucun sens de les acheter chacun de son côté, chacun son contrat, chacun son fournisseur, chacun sa temporalité. Alors certains vont aller très vite, d'autres vont aller très lentement. Certains vont se dire il faut absolument acheter en Europe, d'autres vont se dire ben, moi je veux aller plus vite donc je vais acheter à l'extérieur. Donc du coup il n'y a pas d'économie d'échelle puisque on a tous des stratégies différentes et du coup on donne pas non plus de visibilité aux industriels. Ils se disent bah oui on m'achète un petit peu là, un petit peu là-bas et puis d'autres achètent dans d'autres pays. Alors que si on achetait tous ensemble, on aurait des économies d'échelle, on aurait une synchronisation et on aurait une visibilité qui serait donnée à l'industrie, qui saurait à quel rythme il faut acheter et comment. Et grosso modo, c'est la comparaison qui a été prise par celle qui est devenue la haute représentante de l'Union européenne, Kaja Kallas, quand elle était première ministre d'Estonie. Elle disait, on l'a fait pour les vaccins de la Covid, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas exactement la même chose dans le domaine de l'armement? Et ça, je pense que c'est ça le débat fondamental. Pour l'instant, ce que la Commission européenne fait, et elle va aux limites de ce qu'elle est capable de faire parce qu'elle ne peut pas acheter des armes directement. Elle s'appuie sur des pouvoirs en matière industrielle. Elle donne de l'argent pour la recherche dans la défense. Elle donne de l'argent pour faciliter les contrats communs entre 2-3 États membres. Elle donne de l'argent pour aider l'industrie à augmenter ses capacités de production. Elle offre des prêts aux États membres, mais ça ne remplace pas un investissement avec un budget de défense commun qui pourrait acheter de façon synchronisée. Et ça, je pense que c'est le sens de l'histoire si on veut être efficace. C'est-à-dire que sinon, on aura toujours un système lent, irrationnel et qui ne fonctionnera pas. Deuxième chose, c'est la question de l'Ukraine. C'est pour ça que... De l'Ukraine. On appelle ça les garanties de sécurité à donner à l'Ukraine. Moi, je pense qu'en fait, il faut envisager le problème de façon plus large que les garanties de sécurité. Pour moi, en fait, le débat, c'est l'alliance avec l'Ukraine. Et je vais vous expliquer pourquoi avec un exemple très simple. C'est que je pense que nous avons besoin des Ukrainiens, peut-être autant, et peut-être même dans certaines circonstances, plus que les Ukrainiens ont besoin de nous. Voyant les Américains reculer, les Européens être, en tout cas, les Russes croyant que les Européens sont de toute façon des gens irrésolus et lâches, imaginons que les Russes attaquent un pays de l'OTAN. Je vous ai donné tout à l'heure l'exemple de l'Estonie. Scénario numéro 1. La Russie. L'Ukraine a été démoralisée, affaiblie, personne n'est venu pour assurer sa sécurité. Les Russes lui ont imposé des conditions drastiques. Un nouveau gouvernement est arrivé qui se dit « Notre meilleur espoir, c'est de trouver un terrain d'entente minimal avec cet adversaire russe. » L'Ukraine est neutralisée de fait. Tout le potentiel offensif de la Russie, qui aura eu le temps peut-être en quelques années de se reconstituer, peut être massé contre les pays baltes. Vous pouvez avoir plusieurs centaines de milliers de soldats russes qui se massent là, dans un tout petit territoire où il y a quelques kilomètres entre la frontière et la mer. Situation dure. Deuxième scénario, la Russie veut tenter le même coup, mais on a l'Ukraine avec nous. Et il y a 800 000 soldats ukrainiens qui sont coordonnés avec les troupes de l'OTAN et les troupes européennes sur tout le long de la ligne de front, qui disent « si les Russes attaquent au nord, nous on contre-attaque au sud ». La Russie est obligée de se diviser sur deux fronts. Son potentiel offensif est divisé par deux, situation meilleure. Je pense que ça, c'est la façon dont on doit commencer à penser. Précisément parce qu'on ne peut plus compter sur l'arrivée massive de plusieurs centaines de milliers de soldats américains. Donc la question, c'est comment est-ce qu'entre Européens, on forme un front solide de la mer de Barents à la mer Noire. Et je m'arrête là et je vous remercie pour votre attention.
C'est la fin de cette lorgnette. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Studio ZEF. Tout de suite, c'est le journal de bord d'un élu local. À 18h, c'est la Roxette. La semaine prochaine, pas de lorgnette, nous serons en direct du Printemps de Bourges pour vous faire vivre le festival depuis les locaux de Radio Résonance avec d'autres radios de la région centre. Bonne fin de journée sur Studio ZEF.
139 du journal de bord d'un élu local. Il s'appelle « L'extension du golfe des Bordes, le projet d'une ère révolue, partie 2 ». Et donc, il y avait un premier épisode que vous pouvez écouter, qui est le numéro 138. On est avec notre invitée Catherine, et c'est parti! Bonjour Nicolas.
Bonjour Gaël.
Nicolas, aujourd'hui on parle golf des Bordes, on parle privilège, on parle privilégié, on parle de tout ça avec Catherine, coordinatrice des luttes locales de la région Centre. Bonjour Catherine.
Bonjour à vous deux.
Alors, donc je fais cette introduction parce qu'on avait fait déjà un premier épisode où on a parlé de ce que c'était que ce projet qui se fait du côté de Saint-Nicolas.
Saint-Laurent-Nouan.
Saint-Laurent-Nouan, chaque fois je
me. C'est là où il y a la centrale.
Oui, c'est ça. Je sais pas pourquoi j'appelle ça Saint-Nicolas à chaque fois. Et donc, ouais, ça doit être.
C'est la période de Noël.
C'est ça. et donc, on. Vous ne m'avez pas parlé de comment vous comptez lutter. Vous avez un collectif, c'est ça, Catherine ?
Alors, il y a un collectif. Il y a la coopération des luttes locales centres qui existe et qui rassemble, en fait, sur une plateforme, donc, différentes associations, différents collectifs, différents individus qui souhaitent lutter ensemble contre les projets écocidaires. Et puis, on essaye de monter, enfin on monte, donc on a commencé à monter avec, autour de ce projet du golf, d'extension du golf, donc un collectif qui s'appelle Stop au golf
des bordes,
voilà, tout simplement, sur lequel, en fait, à partir duquel, en fait, on aimerait, et je pense que ça va marcher, parce que les gens sont, en tout cas, réagissent de cette manière, vont se rassembler pour lutter ensemble contre ce projet, que l'on soit vraiment très impacté localement ou qu'on soit impacté beaucoup plus globalement, parce qu'en fait, en général, les impacts locaux sont aussi des impacts globaux.
D'accord.
Oui, voilà. En fait, ce qui se passe, pourquoi c'est maintenant qu'on se réunit ? Parce qu'il va y avoir une enquête publique qui va démarrer. C'est-à-dire que il y a une autorisation d'aménagement qui est déposée en préfecture par le golf. Le préfet peut dire oui ou non selon s'il juge que le projet a un intérêt public, un intérêt revêt quelque chose de l'ordre de l'intérêt général. Par exemple, sur le golfe des Pomereux, il a dit ce type de projet ne revêt pas un aspect d'intérêt général et donc je refuse l'autorisation d'aménagement. Donc ça crée quand même un précédent, ça serait quand même complètement dingue que sur ce golf ils disent ok. Pour autant, il aurait déjà dit, en tout cas c'est ce que M. Druel a dit pendant l'enquête du SCOT, d'un document d'aménagement, qu'il allait valider ce projet. En 2020, il y a une première autorisation de défrichement de 66 hectares qui a été déposée et qui a été autorisée par le préfet. Et là, on a une deuxième autorisation qui a été demandée pour mettre à jour le planning et ajouter à ces 66 hectares 92 hectares de plus pour arriver vers une extension de 150 hectares de défrichement et d'artificialisation de cette zone naturelle.
Et donc du coup, en fait, pourquoi on a un deuxième projet ? On a l'impression que c'est un deuxième projet parce qu'en fait, sur le premier projet, il y avait déjà suffisamment de manquements et de trous, on va dire, dans la raquette. Et ça avait été soulevé par la MRAE, qui est la mission régionale environnementale, et qui donc a forcé en fait le porteur de projet à corriger son dossier. Et donc le dossier aujourd'hui ressort en 2020 et l'enquête publique va être présentée certainement en janvier ou février 2025. C'est quoi une enquête publique ? C'est un petit papier jaune. Un petit papier jaune que vous voyez au fond de votre jardin ou alors dans un champ. Et puis un papier jaune qui est aussi présenté en mairie, mais du coup la mairie uniquement a priori de Saint-Laurent-Nouan. Donc, qui appelle les gens à participer et à laisser des contributions pour donner leur avis sur ce projet. Et la plupart du temps, les enquêtes publiques, c'est quelque chose d'assez obscur. On ne sait pas ce que c'est, on ne sait pas à quoi ça sert. Et on n'a pas véritablement de communication sur cet acte, qui est un acte purement administratif, qui rentre dans un cadre administratif, et sur lequel, en fait, on ne va presque même pas avoir à discuter du fond du problème. Le fond du problème, c'est ce qu'on va nous appeler éventuellement politique, c'est-à-dire est-ce que ce projet est utile ou pas ? Non. Pour nous, c'est non. Voilà, je veux dire, il n'y a même pas d'arrangement et de modification possible. C'est juste non. En fait, ça détruit pour simplement une petite quantité de gens ultra riches Et voilà.
On rappelle, 250, c'est ça ? 250 personnes ?
Ouais, 250 personnes grand maximum.
Aujourd'hui, ils sont 250 et les droits d'entrée, ça sera jusqu'à 500 maximum. Ouais. Donc, en fait, l'intérêt de l'enquête publique, c'est qu'au moment de l'enquête publique, on est obligé de donner accès aux citoyens à l'ensemble du dossier. Et donc, nous, au moment où on aura accès à l'ensemble du dossier, à l'ensemble de l'étude d'impact, qui est un document obligatoire, on pourra faire un recours juridique en s'appuyant sur un avocat qui pourra étudier le dossier. Et avec des associations environnementales, on pourra porter un recours pour dire pourquoi on ne veut pas de ce projet. En 2020, quand la première demande pour le défrichement de 66 hectares a été déposée, il y a eu un premier avis de la MRAE de Romy.
La MRAE,
La MRAE, en gros, c'est les services de l'État qui vont remettre un avis au préfet pour éclairer sa décision, un avis technique. Et en fait, dans cet avis technique qui est rendu public, tu vois qu'il était très, très critique. Et normalement, le porteur de projet doit y répondre et la réponse du porteur de projet doit être rendue publique aussi. Dans cet avis, il est dit plein de choses intéressantes. Il est dit que l'étude initiale de la biodiversité est incomplète et mal faite. Il est dit que les impacts du projet sont saucissonnés en tranches, c'est-à-dire on va regarder l'impact de la première artificialisation de 30 hectares, puis après on regardera l'impact de la deuxième artificialisation de 60 hectares, alors que normalement tu dois étudier l'impact global du projet dans sa généralité.
Ouais. Ça paraît plus logique.
Ce qui n'était pas fait, et souvent c'est une manière de réussir à faire avancer un projet sans qu'il soit arrêté. Il est dit que, les corridors écologiques sont fortement impactés, c'est-à-dire la capacité des espèces à se déplacer sur site et pouvoir survivre. C'est-à-dire, tu vas dire, oui, j'artificialise pas la zone humide, mais en fait, comme tu artificialises tout autour, ben, les animaux n'arrivent plus à vivre dedans, parce qu'en fait, c'est fragmenté, tu as fragmenté un habitat. Tu n'as peut-être mis pas beaucoup de maisons, mais comme tu les as étalées partout et que tu as dû tirer des voiries partout, et ben, en fait, tu as fragmenté l'habitat des espèces qui n'arrivent plus à vivre. Normalement, dans la loi, quand tu fais un projet, tu dois éviter au maximum les impacts. Si tu ne peux pas les éviter, réduire cet impact. Et partout où tu as un impact, tu dois compenser cet impact. Et là, ce qu'il est dit, c'est qu'il n'y a pas d'évitement, il n'y a pas de réduction, il n'y a pas suffisamment de compensation. Ils ont répondu sur la partie réduction des impacts, mais pas sur la partie compensation qui est encore un complexe et pas sur l'évitement. Voilà. C'est plein de choses comme ça. Par exemple, ils recréent des bassins artificiels pour remplacer des zones humides, mais ce n'est pas fonctionnel. Voilà.
C'est ça.
Alors Gaël, tu nous demandes plusieurs fois ce que c'est que la MRAE. On n'a pas répondu précisément. Le nom exact, c'est Mission Régionale d'Autorité Environnementale. C'est du détail, mais l'important, c'est de dire qu'ils émettent un avis technique indépendant auprès des services de l'État. Si je te lis des extraits de l'avis, on trouve les points suivants. Donc, page 46-47, on voit qu'un seul évitement qui est anecdotique, car peu valable techniquement, et quelques propositions de mesures de réduction et aucune compensation. On a un tableau à la fin de l'annexe 7 qui liste les autorisations obtenues et la MRAE juge que ce tableau est tout à fait insuffisant pour mettre en perspective la place du présent dossier dans l'ensemble des autorisations auxquelles le projet est soumis, notamment sans présenter celles qui restent à obtenir. Surtout, et c'est là le point le plus important du dossier, il est jugé que l'actualisation de l'étude d'impact est non centrée sur le défrichement, alors même que c'est l'objet de la demande. Je te lis. L'article L122.1.3 du Code de l'environnement relatif à l'étude d'impact des projets demande que le maître d'ouvrage actualise l'étude d'impact en procédant à une évaluation des incidences dans le périmètre de l'opération pour laquelle l'autorisation a été sollicitée. Dans le cas présent, l'étude d'impact est actualisée sur de nombreux compartiments mais insuffisant sur l'objet de la demande, le défrichement. Et sur cette même page 8, il écrit « L'autorité environnementale constate que le projet n'est pas décrit dans sa globalité. Seule la phase 1 du projet global, qui en compte 6, est traitée dans le chapitre 1 du dossier dédié à cette description. » Donc là, la MRAE souligne clairement une absence de vue globale. On a une seule phase sur 6 phases de travaux qui est décrite dans ces impacts. D'ailleurs, le commissaire enquêteur en 2020, bien qu'il rende un avis favorable, il écrit « L'examen détaillé de l'étude d'impact fournie par le porteur devrait en priorité porter sur le défrichement. Ce critère est noyé dans le détail de l'analyse, rendant l'étude d'impact confuse sur la forme car elle privilégie surtout les thèmes aménagement du projet au détriment de l'objet de la consultation. » Voilà, donc là on espérait un avis nouveau de la MRAE pour cette nouvelle demande de défrichement. Malheureusement, le projet est décrit comme un simple renouvellement et la MRAE, qui est surchargée de travail, a décidé de ne pas analyser ce nouveau dossier.
C'est assez catastrophique quand on voit tous les manquements déjà soulignés pour les 66 premiers hectares, de se dire qu'il n'y aura aucun avis extérieur donné pour les 90 hectares supplémentaires, alors qu'on soulignait justement l'absence de vue globale des impacts de ce projet.
Et donc là, aujourd'hui...
Là, aujourd'hui, on est en train de... On va proposer, en fait, une réunion publique sur Saint-Laurent-Nouan en janvier, début janvier, avant l'ouverture de l'enquête publique. Et puis, nous allons aussi organiser une grande manifestation à la suite de cette réunion publique. Donc, on invite les gens à venir nous retrouver à Saint-Laurent pour qu'ensemble, on décide de la mobilisation qui va poursuivre et surtout les inviter à participer à cette enquête publique. Parce que malgré tout, même si les enquêtes publiques sont quelque chose d'assez peu clair pour beaucoup d'entre nous, c'est quand même important de participer. C'est un des endroits où la démocratie peut s'exprimer, où le citoyen peut s'exprimer, même si son avis n'est pas pris en compte a fortiori. Plus il y a de mobilisation, plus c'est difficile quand même de porter un projet. Politiquement, il n'est pas forcément recevable.
En fait, souvent, ce qui compte, c'est la partie juridique, mais aussi l'opinion publique, la pression citoyenne dans un projet de ce type. C'est-à-dire que eux, on voit bien que ce qu'ils font, c'est essayer de faire en sorte que les choses se passent sans savoir. Moi, on m'a fait sentir très clairement que rendre public, poser des questions, etc., c'était pas bien, quoi. Un porteur de projet comme ça, il va faire les choses à bas bruit. Aujourd'hui, il présente ça comme un simple renouvellement d'une extension qui a déjà été demandée, parce qu'en 2020, les 66 hectares avaient été obtenus. Mais là, c'est pas un simple renouvellement. C'est d'une part, il y a ces 66 hectares qui sont redemandés parce qu'ils ont pris du retard dans leur planning, et puis ils en demandent 90 de droits artificialisés de plus. Puis ça pose plein de questions. Pourquoi est-ce qu'ils ont pris du retard dans le planning ? Aujourd'hui, sur les 97 villas, il n'y en a eu que 13 de commercialisés. On peut même se demander si la réalité économique de ce projet existe et si on ne risque pas d'artificialiser et de défricher toute cette forêt pour un projet qui n'aura pas de rentabilité économique et qui va rester vide. C'est un risque existant.
Et on ne peut pas savoir.
On ne peut pas savoir, mais en tout cas, ce qu'on voit, c'est que c'est pas vendu du tout au rythme où ils espéraient vendre. Donc, ça pose des questions.
On ne peut pas savoir, mais alors, d'une part, je vais revenir sur le fait que les projets avancent, on va dire, à bas bruit. Les gens de Saint-Laurent-Nouan n'avaient pas encore entendu parler de ce projet-là d'extension. On a commencé à faire un petit peu de bruit, donc certains sont au courant, mais en fait, peut-être pas la totalité des habitants de Saint-Laurent qui seront eux-mêmes quand même impactés, y compris financièrement. Et d'autre part, en fait, on se rend compte, quand on dézoome un petit peu, en fait, cette histoire d'artificialisation des sols au titre du Golfe, mais nous, au niveau de la coopération des luttes locales, on lutte essentiellement pour le moment, parce que c'est l'actualité régionale, on lutte contre les plateformes logistiques, on s'aperçoit en fait qu'il y a une véritable spéculation foncière qui se joue aussi au niveau des territoires, en fait. La loi artificialisation... La loi ZAN, plus voilà, simplement, voilà. Ouais.
Demande de réduire la vitesse d'artificialisation des terres.
Voilà, en fait, on ne peut pas consommer comme on voudrait. On ne peut plus consommer comme on voudrait les terres. Les terres, aujourd'hui, sont considérées comme consommables. C'est juste absolument incroyable quand on entend le mot consommation. Enfin bon, bref, peu importe. Et pourquoi on ne peut pas les consommer ? Parce qu'en fait, on en a besoin. On en a besoin pour nous nourrir. La plupart du temps, ce sont des terres agricoles qui sont consommées. Ensuite, on en a besoin pour la biodiversité, les terres naturelles, les friches, les zones humides, etc. Toutes ces diversités de sols contribuent en fait à nous permettre simplement d'avoir une vision d'avenir un peu plus longue que celle des 10, 15, 20 ans qui vont venir. Et donc la loi ZAN cadre tout ça. Et cette loi ZAN, en fait, elle limite considérablement l'artificialisation, avec comme objectif premier, a priori, l'urbanisation pour le logement, pour l'industrie, et a priori, en premier, je crois bien, en fait, finalement, c'est pour les terres agricoles.
On va devoir finir là-dessus. On va peut-être continuer à discuter, Catherine, si tu veux bien, et parler un petit peu, on a commencé à parler un petit peu de lutte locale en région centre. Je vous propose de continuer cette discussion dans le prochain épisode. Ça me convient ?
Ça marche.
C'est parfait.
Merci beaucoup. Salut !
Salut !